Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de te recevoir ici pour parler d'Irma Levasseur, première femme médecin canadienne-française. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est assez intéressant parce que oui, on nous livre, tu vas nous livrer ce portrait de cette femme, première grande scientifique, première médecin, mais en même temps, c'est un peu une histoire de la femme ici au Québec. Et ce qu'il faut savoir, et qui peut être assez confrontant, c'est qu'elle n'a pas pu étudier ici parce que les études en médecine ne se donnaient pas.
Oui, j'ai vu en fait, elle a eu son diplôme 18 ans avant que les femmes ne puissent entrer à McGill et 30 ans avant l'Université de Montréal. J'ai vu des données contradictoires par rapport à l'Université Bishop. Là,
ouais.
C'était pas clair.
Près de Sherbrooke, oui.
Donc, née à Québec, de parents quand même hors du commun. La mère est cantatrice, son père est journaliste, écrivain. Et après avoir complété son cours classique et fait 2 ans d'école normale, hein, les femmes, on les destinait souvent à l'enseignement quand elles faisaient des études, elle décide d'aller étudier la médecine aux États-Unis. Tout de suite après avoir eu son diplôme, elle pratique à New York, mais elle décide de revenir ici. Et il faudra qu'elle obtienne, grâce à une loi privée, en fait, le droit, la reconnaissance de son diplôme et le droit de pratiquer au Québec.
Oui.
Donc, à chaque fois, c'était du cas par cas. On appelait ça un bill privé.
Il fallait presque que les femmes demandent la permission. Là.
Voilà. Oui. Et généralement, elles étaient cantonnées à la pédiatrie, à la gynécologie et à l'obstétrique. Or, justement, elle s'intéresse beaucoup à la question des enfants, à la forte mortalité infantile à Montréal. À l'époque, on parle de mortalité avant l'âge d'un an, hein, principalement à cause de la non-pasteurisation d'une partie du lait et de l'eau qui n'était pas toujours bien traitée. Donc, elle s'en va en Europe pour se spécialiser auprès de grands pédiatres. Et puis, quand elle revient, c'est là qu'elle approche des gens dans le but de créer le premier hôpital pour enfants pour la clientèle francophone. Le Children's existait déjà.
OK.
Mais elle approche des gens de la bourgeoisie francophone, dont Justine Lacoste-Beaubien, qui n'a pas d'enfants et dont la famille a beaucoup d'argent, qui embarquera dans le projet. Notre fait à noter, le gouvernement aussi a fait une loi pour déresponsabiliser les maris des femmes qui investissaient là-dedans de la responsabilité financière parce que normalement, ça les engageait automatiquement.
Est-ce qu'elle s'était inspirée de certains modèles en Europe qu'elle ramenait ici?
Bien, on sait qu'elle a, en Europe, étudié auprès d'une éminente pédiatre, mais je ne sais pas si elle s'en est inspirée pour le modèle d'hôpital. Elle est encore très jeune, hein? Elle a 25 ans à ce moment-là.
Okay.
Et là, arrive ce qui va se reproduire à plusieurs reprises. Les affaires sembleraient que ce n'était pas son fort et elle va être exclue du conseil d'administration. Et Serge Bouchard a dit d'elle qu'il sera parent tout au long de sa carrière et de sa vie, que la docteure Irma n'avait ni le sens des affaires, ni le sens de l'argent, ni le tact, ni le flair politique pour survivre dans les administrations. Elle quitte l'hôpital Sainte-Justine et répond à l'appel, un appel qui avait été lancé pour aller soigner les gens atteints du typhus en Serbie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment
des conditions particulières.
Là, immuniser 1000 personnes par jour dans des conditions vraiment difficiles. Et parfois, elle doit trouver elle-même la nourriture, abattre des chèvres. En tout cas, c'est vraiment des conditions incroyables. Je pense que c'est dans ces circonstances-là qu'elle était à son meilleur.
Ouais. Mais vraiment comme une soignante de première ligne, peut-être davantage que quelqu'un qui administre. Là.
Voilà.
Et on le verra du côté de Québec par la suite.
Bien voilà, c'est ça. À son retour, elle fonde, avec les docteurs Édouard Sanson, orthopédiste, et René Fortier, pédiatre, un nouvel hôpital pour enfants, cette fois-ci à Québec. Ce sera l'hôpital de l'Enfant-Dieu. Elle achète elle-même la maison sur Grande Allée où est fondé l'hôpital. Mais l'histoire se répète. Encore une fois, elle ne s'entend pas avec le conseil d'administration. Elle quitte et elle perd beaucoup d'argent dans la vente de la maison qu'elle avait payée avec ses propres économies. Elle met sur pied brièvement une clinique, mais encore une fois, des problèmes financiers. Et là, ensuite, elle milite pour que soit créée une école pour les enfants handicapés, un projet qui sera éventuellement mené à terme par la Ligue de la jeunesse féminine de Québec. Ça deviendra l'école Cardinal Villeneuve qui a été fondée en 1935.
Et maintenant, on nous dit peut-être un palier de l'Institut de réadaptation aux déficiences physiques du Québec.
Oui, c'est ça. C'est ce qui est devenu l'institution depuis. La dernière activité médicale qu'on lui connaît, c'est d'avoir examiné des recrues féminines qui voulaient entrer dans l'armée canadienne au manège militaire de Québec lors de la Seconde Guerre mondiale.
Et elle finit sa vie dans des conditions, disons, plutôt... pas alarmantes, c'est pas le bon terme, mais plutôt triste, là, on peut
dire comme
ça.
Vraiment dans l'oubli. Elle se retire dans une petite maison rue de l'Artillerie à Québec. Elle vit dans la pauvreté. dans le dénuement et dans l'oubli. Il y a des membres de la famille éloignée qui lui amènent de la nourriture pour qu'elle puisse se nourrir. Elle est vraiment recluse. On dit que... Bon, finalement, elle est internée à la clinique Roy-Rousseau de l'hôpital Saint-Michel-Archange en 57-58. C'est un internement psychiatrique.
Oui, on comprend.
Et ce sera son dernier grand combat, en fait, d'essayer de sortir de là. Elle a finalement réussi à faire la preuve qu'on l'avait maltraitée sans raison ni diagnostic et que juste pour se débarrasser de cette vieille vivant seule.
Et elle a eu une reconnaissance suite à sa mort posthume. En 30 secondes?
Oui, bien, il y a un prix à son nom. Il y a une place aussi à Charlebourg, à Québec, qui lui rend hommage.
Oui, et aujourd'hui, ben, on pense à elle grâce à vous, grâce à toi, Christiane Campagna. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.